Bonjour à toutes et tous. Donc, en ma qualité de responsable du protocole en ville de Genève, j'ai le plaisir d'ouvrir cette cérémonie de dévoilement de la plaque épigraphique en mémoire de l'hôpital Gourgas. Madame la présidente du Grand Conseil, monsieur le conseiller d'État de la République et canton de Genève, madame la vice-présidente du conseil administratif de la ville de Genève, madame la conseillère administrative, mesdames et messieurs les représentants des autorités cantonales, municipales et de la société civile, mesdames et messieurs les représentants de la famille et de la société Théodore Monnoir, mesdames et messieurs les représentants de la Fondation Gourgas, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant et de l'animation parascolaire, mesdames et messieurs les membres du personnel de la maison de quartier de la Jonction, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers élèves, chers parents, chers publics, soyez les bienvenus en ce lieu dont nous allons aujourd'hui raviver l'histoire. J'invite dès lors, sans plus attendre, monsieur Roger Durand, président de la société Théodore Monnoir, à s'exprimer.
Merci mesdames et messieurs d'avoir pris la peine de vous déplacer pour cette cérémonie. Elle est dédiée à la création de l'hôpital Gourgas, destiné à être ouvert à tous les enfants, sans exception, en 1872. En organisant cette manifestation, la société Théodore Monnoir réalise un double but. Tout d'abord, honorer la mémoire de celles et ceux qui se sont dévoués pour que Genève dispose enfin d'un hôpital qui soit spécialisé pour les soins aux enfants exclusivement. Quels sont les auteurs de cette initiative, donc de créer cet hôpital? Nous pensons tout d'abord aux 16 médecins, la plupart genevois, mais certains venaient ou de France ou d'Italie, et qui appartenaient à toutes les catégories sociales de la Genève des années 1870, où, et ça c'était notre surprise réjouissante, qui appartenait aux deux confessions principales, c'est-à-dire le protestantisme et le catholicisme. Un livre vous sera proposé à la fin de cette cérémonie qui les décrit plus en détail. Ce livre se trouve sur cette table là-bas. La seconde catégorie de personnes, ce sont les docteurs qui ont animé le projet. Nous voulons parler de André Jacob Duval, qui a lancé la campagne de presse et qui a soutenu ce projet jusqu'à devenir le médecin référent pendant les premières années de l'hôpital Gourgas. L'autre docteur, c'est Théodore Monnoir, qui a soutenu cette campagne pendant les premiers mois de 1869, alors que la mort le guettait. Il est tombé le 26 avril 1869. C'est quasiment son testament spirituel. Un troisième docteur mérite notre attention, c'est Paul Monnoir, qui est le fils de Théodore et de la première épouse de celui-ci, Herminie. Et Paul Monnoir, comme beaucoup d'autres médecins genevois, vont opérer dans l'hôpital gratuitement pendant leur journée de travail, offrant ainsi un bel exemple de philanthropie genevoise. La dernière actrice de cette réussite s'appelle Hélène Vernet. Et tout d'abord, nous ignorions jusqu'à son nom. Et nous avons découvert que, d'une part, elle s'est imposée comme médiatrice entre ces personnalités fortes qu'étaient nos médecins des années 1870. Et ensuite, elle s'est dévouée en étant directrice de l'hôpital jusqu'à sa mort prématurée en 1875. Elle avait 44 ans. Notre second but pour cette cérémonie, c'est de mettre en évidence l'un des principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui connaît aujourd'hui des violences et on pourrait dire des négations absolument terribles dans l'actualité que vous connaissez, tant en Ukraine qu'à Gaza, pour ne citer que deux exemples. C'est la neutralité des personnes vulnérables et la neutralité des soins qui leur sont prodigués. Nous mettons l'accent sur les bénéficiaires de cet hôpital, c'est-à-dire des enfants issus de milieux précaires, voire très pauvres. Les soins à l'hôpital étaient gratuits. Mais pour nous, le plus intéressant, si j'ose dire, c'est que l'hôpital était ouvert à tous les milieux confessionnels. Dans une Genève des années 1870, où on avait un hôpital catholique et une infirmière protestante pour les enfants, cette initiative d'ouvrir un hôpital à tout le monde était naturellement bienvenue, exceptionnelle. En créant un hôpital neutre au point de vue social et religieux pour les enfants, Théodore Monnoir, cofondateur du CICR, apportait à la fois une application concrète de l'esprit Croix-Rouge à Genève, berceau de l'institution, mais surtout, il innovait en appliquant ce principe à des civils. Alors qu'à l'époque, l'action de la Croix-Rouge internationale se limitait aux militaires. Concluons par une surprise. En étudiant la création de l'hôpital Gourgas, nous avons découvert une personnalité éminente, mais complètement oubliée, Hélène Vernet. Notre cérémonie inaugure un processus de réhabilitation. Gageons que nos efforts pour lui rendre sa place parmi les femmes qui ont bâti l'humanitaire à Genève, que ces efforts mobiliseront désormais nos énergies et celles des autorités. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Je prie monsieur Philippe Monnoir, membre de la famille de Théodore Monnoir, à prononcer son allocution. Je vous en prie.
Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis donc un membre de la famille Monnoir, descendant de Théodore Monnoir. Et donc, je vais évoquer un tout petit peu cette famille Monnoir, d'où est-ce qu'elle vient, et puis quels sont les ancêtres qui sont illustres pour un peu avoir une meilleure idée de ce que Théodore, où Théodore se trouve dans cette famille. Les arbres généalogiques nous font remonter en fait les premiers Monnoir en 1540 à Angers, en France. Et donc c'est les ancêtres les plus anciens qu'on a pu retrouver pour l'instant. Donc c'est une famille qui vient de Angers. 200 ans après, c'est-à-dire au bout de 7 générations, eh bien il y a un Charles Monnoir qui va en fait venir en Suisse. Il se trouve qu'il y a beaucoup de Charles dans cette famille. Et ce Charles qui arrive en Suisse, c'est le 4e Charles dans la famille. Il arrive en Suisse en 1760-68, par là, et il arrive dans le canton de Neuchâtel, à Valangin. Alors une chose intéressante là, c'est qu'il va abjurer le catholicisme avec sa femme, et donc ils vont devenir protestants. Depuis le canton de Neuchâtel, ensuite ils vont venir à Genève, Et puis à Genève, eh bien, il va avoir une certaine importance, puisqu'ils vont d'abord être habitants de Genève, et puis ensuite on retrouve le fait que ce Charles Monnoir devient régent du collège de Genève. Et on sait qu'une année, il s'occupe des troisième années, un peu plus tard, il s'occupe des deuxième années, ensuite une première année, donc ça devient de plus en plus important pour lui. Voilà, il devient donc bourgeois de Genève en 1779. Donc la famille Monnoir devient une famille importante à Genève en 1779. Voilà. Ce premier Charles a 8 enfants et il y a 2 de ses enfants qui sont importants. C'est Jean-Pierre Monnoir, qui est chirurgien, qui est médecin et qui fait une thèse à Paris, qui est très important, qui devient un oculiste très renommé. Il a une clientèle entre Genève et Paris, et aussi anecdotiquement, eh bien, on a retrouvé une petite note de Rudolf Topfer, qui était patient du docteur Jean-Pierre Monnoir, et qui, ne pouvant pas payer les consultations, ben, lui faisait des petits dessins, et ça suffisait pour ses honoraires. Voilà. Et donc ce Jean-Pierre Monnoir était très important pour Théodore Monnoir, puisque c'était son oncle, médecin, très renommé. Un autre enfant, ben, c'est le père de Théodore Monnoir, qui s'appelle Charles Théophile, et qui lui aussi est médecin, chirurgien, et chirurgien à l'hôpital. Et donc il devient aussi professeur, et il a une importance dans la médecine à Genève. Et donc, c'est donc le père de Théodore. Donc, il est docteur en médecine, il est aussi chirurgien. Il fait une thèse à Paris sur la cataracte, voilà, différents problèmes autour de la cataracte. Et quand on a été récemment avec la famille à Paris pour découvrir sa thèse, et au début de sa thèse, il l'a dédiée, a fait une dédicace à son père d'abord, qui l'a beaucoup soutenu, et à son oncle, le docteur Jean-Pierre Monnoir. Voilà. Eh bien, Théodore, il va épouser Herminie Clavier. Il y a toutes sortes d'histoires autour d'Herminie Clavier, qui a déjà 2 enfants, qui est plus âgé que lui. Son ancien mari était pamphlétaire en France, Paul-Louis Courier. Et donc, elle revient à Genève, et là, elle rencontre Théodore, et ils vont donc se marier. Ils vont d'abord avoir un enfant hors mariage, ce qui est assez étonnant à cette époque-ci, qui s'appelle Charles, de nouveau un Charles, et qui, lui, va devenir secrétaire général de la Société géographique de Paris. Donc, une place très très importante, puisque c'est à partir de cette Société géographique de Paris que beaucoup de chercheurs vont aller explorer le monde. Et il se trouve que pour honorer ce Charles Monnoir à Paris, eh bien, il a été dédié le nom de Monnoir à un lac au nord du Canada. Voilà, donc tout près du grand lac de l'Ours, si vous voyez où c'est, au nord du Canada, au nord-ouest du Canada, et il y a un lac Monnoir. Le second, enfin un autre fils de Théodore, c'est Paul Monnoir, voilà, docteur en médecine et chirurgien également. Donc on voit que cette tradition de médecin est très 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 importante dans la famille Monnoir, puisque le fils de Paul, donc le petit-fils de Théodore, c'est mon grand-père, Roger Monnoir, qui est aussi médecin de famille, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de patients à Genève. Voilà. Donc, Roger a eu 3 enfants, dont mon père, et puis, voilà, nous sommes ici, quelques-uns, mon frère, ma sœur, et puis mes cousins, mes cousines. Nous sommes la 13e génération de Monnoir, depuis le tout premier Monnoir qu'on a découvert, René Monnoir, à Angers, en 1540. Voilà un peu l'histoire, quelques histoires, quelque chose à dire sur cette famille Monnoir qui est importante, je pense, pour Genève et la médecine à Genève. Voilà, je vous remercie.
Merci, monsieur Monnoir. Je prie Madame Laurence Levrat-Pictet, présidente de la Fondation Bourgas, à s'exprimer.
Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à l'engagement de médecins visionnaires qui, en 1872, ont uni leurs forces et leur générosité pour donner naissance au premier hôpital pour enfants, l'hôpital Bourgas. Leur initiative a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la pédiatrie à Genève et durant près d'un siècle, l'hôpital a accueilli et soigné des enfants sans distinction d'origine, de confession ou de condition sociale. Lorsque l'hôpital Gourgas a fermé ses portes dans les années 1970, la vente de ses terres à la ville de Genève a permis de donner une nouvelle vie à cet engagement, dans la forme d'une fondation philanthropique, la Fondation Gourgas. Fidèle à sa mission d'origine, la Fondation Gourgas poursuit maintenant depuis plus de 50 ans son soutien aux enfants malades et vulnérables à Genève, incarnant ainsi la continuité de l'esprit de solidarité qui avait présidé à la création de l'hôpital Gourgas. Depuis lors, l'action de la Fondation s'est traduite par divers soutiens à des projets, et je vais en citer trois. Tout d'abord, pendant plus de 40 ans, la Fondation Gourgas a soutenu le programme de chirurgie cardiaque pédiatrique mené en partenariat avec Terre des Hommes et les HUG, permettant à des enfants atteints de malformations congénitales, venus de pays dépourvus de soins spécialisés, d'être opérés à Genève et de retrouver une vie normale. Nous soutenons également depuis plus de 30 ans la Fondation Cap Loisir qui favorise l'intégration et l'autonomie d'enfants atteints d'autisme ou de troubles du développement. Et depuis 1992 également, la Fondation Gourgas accompagne l'Association pour l'aide à l'enfant greffé, permettant à des familles modestes venues de toute la Suisse de pouvoir rester proches de leur enfant durant une hospitalisation de longue durée à Genève. Ces engagements traduisent une philanthropie fondée sur trois piliers. La continuité, la confiance et l'impact. Une philanthropie discrète, mais concrète et durable, qui agit là où les besoins sont les plus importants. Maintenant, à titre personnel, ce moment est empreint d'une certaine émotion pour moi, parce que l'un des médecins qui a contribué à créer l'hôpital Gourgas il y a plus de 150 ans était mon arrière-arrière-grand-père, le docteur Charles Isaac Fauconnet. Et de constater que plus de 150 ans après, cet élan auquel il a participé se poursuit sous une autre forme, me touche profondément. Donc aujourd'hui, en inaugurant cette plaque, nous ne faisons pas seulement œuvre de mémoire, nous rendons hommage à des engagements humanistes qui, depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, placent le bien-être des enfants au cœur de nos actions. Puissions-nous tous ensemble continuer à faire vivre cet héritage et l'inscrire dans les défis de notre temps. Je vous remercie.
Merci Madame la Présidente. J'invite Monsieur Éric Mégevan, président de la Croix-Rouge genevoise, à me rejoindre.
Merci beaucoup. Je m'associe bien évidemment aux salutations protocolaires d'usage et remercie Monsieur Durand et les membres de la société Théodore Monnoir de votre invitation pour présenter à vous en tant que représentant de la Croix-Rouge genevoise. C'est un immense plaisir et un grand honneur de participer à cet événement dédié à l'un de ceux qui a inspiré, quelques mois avant sa mort, ça a été évoqué, la création de cet hôpital Gourgas. Alors comme beaucoup d'hôpitaux au nom de médecins célèbres, celui-ci porte également le nom d'une personne illustre. Qui est donc ce monsieur Gourgas, dont on pourrait penser qu'il est l'initiateur de l'initiative? Bien, monsieur Gourgas était en fait un homme d'État, un avocat, conseiller d'État, qui a siégé pendant près de 20 ans, et ce jusqu'à sa mort à 90 ans. Vous voyez, monsieur le Conseil d'État, qu'il faut siéger longtemps pour mériter le nom d'une rue et celle d'un parc. Alors, à qui est-on redevable à la création de ce premier hôpital du canton? Tout le monde se rappelle le rôle de monsieur Monnoir, bien sûr, en coordination et en entente avec le général Dufour, monsieur Gustave Moignet, Louis Appia et bien sûr Henri Dunant, dans l'établissement du mouvement Croix-Rouge, et en co-signant en 1863 la création du CICR, et un an plus tard, en 1864, celle de la Croix-Rouge genevoise. Pourtant visionnaire, M. Monnoir a été longtemps le grand oublié, puisque tous ses prédécesseurs et co-signataires avaient déjà leur plaque épigraphique depuis longtemps, alors que celle posée à la mémoire de Théodore Monnoir ne l'a été qu'en 2023, à la rue du Soleil Levant à la Vieille Ville, qui était son lieu de domicile. Cette injustice a été réparée, et maintenant c'est un deuxième hommage qu'on lui apporte, en reconnaissance au mouvement qu'il a initié conjointement avec ses autres collègues médecins dans la création de cet hôpital. Alors, à mon tour, un petit moment d'émotion, puisqu'il me tient particulièrement à cœur d'être ici, en ma qualité de médecin chirurgien, comme M. Monnoir, et également d'évoquer la mémoire de mon oncle, feu Albert Mégevant, pédiatre, qui lui n'a pas été cofondateur, mais a été pendant de nombreuses années, dans les années 1970, médecin reposant de ce fameux hôpital Monnoir. Outre les principales contributions de M. Monnoir à la naissance et au déploiement de la Croix-Rouge internationale et de la Croix-Rouge genevoise, il est important d'évoquer les retombées positives que ces actions ont encore aujourd'hui sur notre population et dans notre beau canton. L'IMAD, tout d'abord. Après avoir signé les fondements de la Croix-Rouge genevoise en 1864, Théodore Monnoir constitue le Comité des Dames. On a parlé d'Hélène Vernet, arrive maintenant le Comité des Dames. Elles seront 160, peu après la signature de la Croix-Rouge genevoise, à adhérer la première année, et Monnoir leur montre comment préparer de la charpie pour la fabrication des pansements, indispensables aux soins des blessés, la confection de pyjamas pour malades, d'habits civils, de repiècement des draps, des vêtements d'infirmerie, des champs opératoires, et ainsi Monnoir continue à professionnaliser les soins. Ça sera d'ailleurs une des activités principales de la Croix-Rouge genevoise durant des décennies. Rapidement, Monnoir encourage la sœur de William Favre, Alice Favre, à faire son entrée dans le Comité des Dames. Elle en deviendra d'ailleurs la première et jusqu'à ce jour dernière présidente en 1917, présidente de la Croix-Rouge. Participant à la création d'un établissement d'infirmières, Alice Favre ouvre un centre d'hygiène publique, initie les soins à domicile à Genève, qui sont longtemps restés dans les mains de la Croix-Rouge, puisque ce n'est qu'en 1993 que ça deviendra la FSAID, aujourd'hui repris sous l'intégrale de IMAD. On peut donc affirmer que Théodore Monnoir, sous l'impulsion de Théodore Monnoir, ce sont bien des femmes qui ont fait et créé et fait grandir la Croix-Rouge genevoise, en établissant également le développement du réseau sanitaire et de soins de notre canton. Une autre contribution majeure de Monnoir révèle à la fois son courage et un esprit en avance sur son temps. Il réussit à convaincre autour de lui que des civils peuvent apporter une aide précieuse en temps de guerre, à condition d'y être bien préparés, même comme bénévoles. Quand on songe à la guerre en Ukraine avec l'ouverture en mars 2022 du centre d'accueil de jour pour les réfugiés que la Croix-Rouge genevoise a mis sur pied actuellement et toujours actif à la rue de Lausanne, on se rend compte de l'importance de cette actualité. C'était donc véritablement un homme visionnaire. Et aujourd'hui, dans ce centre d'accueil de jour, ce sont près de 4000 personnes de toutes nationalités, au début les Ukrainiens, mais aujourd'hui les Afghans, les Syriens, les Libyens et beaucoup de populations africaines en défaut, qui viennent chercher un moment de répit, de rencontre et d'échange dans ce centre d'accueil de jour de la Croix-Rouge. Si le visionnaire docteur Monnoir a su en son temps initier ce mouvement de solidarité et instaurer en ville de Genève des normes sociales et sanitaires, dont la création de cet hôpital, son esprit reste actif aujourd'hui et sa mémoire saluée tous les jours au sein de la Croix-Rouge genevoise. Son élan vers les plus petits et les plus démunis rayonne encore activement aujourd'hui, puisque à la Croix-Rouge, nous accueillons plus de 50 000 personnes par an qui viennent chercher aide et réconfort, soit à peu près 10% de la population du canton. Si la Croix-Rouge genevoise a comme vision une Genève humaine et sans souffrance, elle se donne comme mission de fournir une aide ponctuelle aux personnes en difficulté dans le canton lorsque l'aide officielle fait défaut. Dans le domaine des soins, nous tentons d'optimiser la prévention, l'orientation vers un système de soins organisé, d'offrir des soins dentaires aux personnes sans assurance ou aux revenus précaires. Et dans le domaine de l'enfance, nous offrons plus de 45 000 heures de visite aux enfants hospitalisés sans soutien familial. Nous offrons également un soutien aux enfants souffrant de troubles 10, dysorthographie, dyscalculie, dyslexie et autres. Une assistance aux familles en difficulté par notre service de garde d'enfants de Chaperon Rouge et bien d'autres. Alors oui, la mémoire de Théodore Monnoir reste bien vivante dans le cœur des habitants de Genève. Le flambeau est loin de s'éteindre. La Croix-Rouge genevoise y veille. Et nous vous remercions infiniment de poursuivre cet important travail de mémoire. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président. J'invite Madame Marjorie de Chastenay, conseillère administrative de la ville de Genève, à s'exprimer.
Merci, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à vous d'être assemblés ici au parc Gourgas et merci à la société Théodore Monnoir d'avoir pris l'initiative de cet événement. Je vais rebondir sur les propos de son président relatifs au devoir de mémoire et exposer brièvement de ce que fait en la matière le département qui m'a été attribué pour mon plus grand plaisir. Ce département est surtout connu pour ses responsabilités dans l'aménagement de l'espace public et dans la construction et l'entretien des bâtiments municipaux. Mais il ne fait pas que cela. Et je découvre ses multiples facettes avec un vif intérêt depuis mon entrée en fonction début juin. Alors, bien qu'il ne gère pas de musée, ou pas encore, ce département joue un rôle important dans la valorisation de l'histoire de notre ville. D'une part, c'est le service de l'aménagement du génie civil et de la mobilité, la GCM, qui gère toutes les demandes relatives aux plaques épigraphiques, comme celles que nous inaugurons aujourd'hui. C'est à la GCM qu'on réfléchit aux modalités pratiques, quel est le meilleur endroit pour fixer cette plaque, qu'elle soit visible, qu'elle ait du sens. Comment accompagne-t-on les requérants? Comment fixe-t-on cet objet? Comment s'assure-t-on sur le long terme que cet objet reste intact? C'est un travail qui peut sembler humble, mais qui est très conséquent et qui permet de cultiver la mémoire de la ville dans l'espace public. D'autre part, le département abrite aussi l'unité conservation du patrimoine, l'UCP, laquelle permet également au grand public de s'approprier l'histoire de notre cité. Cette histoire qui relie toutes celles et tous ceux qui s'identifient à Genève, quelles que soient leurs ascendances. Cette unité a lancé les Journées du patrimoine à Genève en 1994. C'était une première en Suisse. Et depuis 2021, en simultané, elle organise les Journées du matrimoine qui font connaître la contribution des femmes à notre histoire. La prochaine édition de ces journées a lieu tout bientôt les 12, 13 et 14 septembre. Cette unité collabore bien évidemment aussi avec l'Office cantonal du patrimoine, l'OCP, pour rendre visible l'histoire de certains lieux de mémoire, avec par exemple des totems qui ont été tout récemment installés, notamment aux 14 rues de l'Hôtel de Ville, là où se dressait au Moyen-Âge l'ancien château comtal de Genève. Je ne vais pas rentrer dans les pans incroyables de cette histoire de notre passé, mais c'est très 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 intéressant. Et c'est aussi une façon de dire l'histoire et la géographie de notre ville entre bouleversement et permanence. Les plaques épigraphiques ont un peu la même fonction révélatrice et mémorielle que celle des palimpsestes. Palimpsestes, ces parchemins qui étaient si précieux que parfois on en effaçait le texte initial qu'on y avait inscrit afin de les réutiliser pour y écrire un autre texte. Mais les techniques modernes permettent de redécouvrir l'écrit d'origine, qui a laissé son empreinte dans la profondeur de la matière. Notre ville est elle aussi un palimpseste. Elle ne cesse de changer, et Dieu sait si les nombreux chantiers en cours peuvent susciter de l'irritation, comme à la rue de Carouge. Je le sais bien en tant que magistrate en charge des travaux. Il n'en reste pas moins que notre ville n'a jamais cessé de se transformer, de se rebâtir sur elle-même et qu'elle continue de le faire, mais sans devenir amnésique. Comme sur l'ancien château du comte de Genève, où travaillent aujourd'hui des élus issus de la démocratie, une permanence de l'histoire reste lisible actuellement au parc Gourgas. Ce bâtiment a jadis servi à soigner des enfants malades, et cela même s'ils étaient pauvres. Il a changé radicalement de fonction en devenant une antenne de la maison de quartier. Mais de ce fait, cet édifice reste encore et toujours au service de la jeunesse, dans un quartier éminemment populaire. Cette même jeunesse qui est notre avenir et qui, grâce à cette plaque épigraphique, saura elle aussi porter la mémoire du passé vers le futur. Merci encore à la société Théodore Monnoir. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la pose de cette plaque. Et merci à vous tous pour votre attention.
Merci Madame la conseillère administrative. J'invite à présent Madame Christina Kitsos, vice-présidente du conseil administratif de la ville de Genève, à prononcer son allocution.
Ma voix, c'est ma voix.
mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, en dévoilant cette plaque commémorative, nous célébrons non seulement la mémoire d'un médecin d'exception, comme cela a été soulevé, mais aussi celle d'un pionnier. Alors, on a utilisé le terme visionnaire. Pour ma part, j'utilise le terme de pionnier, dans le sens où il a amené une révolution dans l'accès aux soins pour les plus vulnérables de notre société. Les enfants issus de familles défavorisées, les enfants nommés en tant que pauvres, en tant que familles dites nécessiteuses. Il y a plus de 150 ans, à Genève, un enfant issu d'une famille modeste qui tombait malade avait très peu de chances de recevoir des soins appropriés. Alors c'est vrai qu'avec le temps passant, cela nous paraît incroyable, mais il est vrai que les conditions discriminatoires qui régnaient à Genève étaient tout simplement inacceptables. Il fallait appartenir à la religion réformée et être muni d'un certificat de pasteur. Les enfants de moins de 5 ans étaient purement et simplement refusés, tout comme ceux atteints de maladies jugées indignes. Alors il y avait toute une série de maladies jugées indignes, et notamment la teigne. Alors face à cette injustice, face à ce contexte-là, de cette époque-là, Théodore Monnoir se dresse. Et il faut imaginer le courage qu'il faut, la vision qu'il faut, pour pouvoir rendre compte, pour visibiliser la souffrance de ces familles, la souffrance de ces enfants. Et puis finalement, refuser cette médecine à deux vitesses. Et placer au cœur de son engagement la dignité des enfants, la dignité des familles. Et finalement, c'est en restaurant cette dignité-là qu'on restaure la dignité de toutes et tous. Parce que finalement, il n'y a pas d'humanité si on ne peut pas prendre soin des personnes les plus vulnérables. Alors son combat aboutit en 1872 avec l'ouverture de l'hôpital Gourgas qui accueille enfin tous les enfants malades sans distinction. Alors cet établissement naît de la conviction profonde qu'aucun enfant ne doit être privé de soins à cause de sa condition sociale, marque un tournant véritablement décisif dans l'histoire de notre cité. Pour la première fois à Genève, la médecine pédiatrique devient véritablement universelle. Et c'est là qu'on voit à quel point elle amène aussi un véritable levier en faveur de la justice sociale, en faveur de l'égalité. Et ce message résonne encore aujourd'hui. On l'a vu quand on a commémoré la déclaration de Genève en 2024, cette déclaration qui a été rédigée par Eglantine Jebb et qui amène pour la première fois des droits universels pour tous les enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur condition sociale. Eh bien, on voit que finalement, c'est pas par hasard que cette Britannique sur les hauteurs du Salève a eu cette idée. On voit qu'à Genève, il y avait un terreau, il y avait tout un travail qui a été fait avant la rédaction de cette déclaration de Genève qui va inspirer l'actuelle convention de l'ONU sur les droits des enfants. Alors, quelque part, c'est très clair hein, pour nous toutes et nous tous, c'est de dire que l'accès aux soins n'est pas un privilège, il est un droit fondamental pour toutes et tous. Et les problèmes sont encore existants parce qu'on sait qu'il y a des inégalités, on sait que les primes d'assurance maladie prennent l'ascenseur, qui mettent à mal un certain nombre de familles notamment. Et lors de la dernière conférence romande des enfants, qui accueille plusieurs enfants de plusieurs cantons, l'accès aux soins était une recommandation. Alors c'était un peu surprenant. Alors en les entendant, ce n'était pas vraiment l'accès, mais ce qu'ils entendaient, c'est comment est-ce que notre voix peut être prise en compte par les soignantes et soignants. C'est un petit peu ce qu'on appelle le savoir patient. Et les enfants disaient qu'ils souhaitaient pouvoir s'exprimer davantage sur comment ils se sentaient, les différents problèmes qu'ils avaient, et que c'était souvent les adultes qui prenaient la parole à leur place. Et donc ça, c'était un point vraiment central de leur revendication. Alors pour terminer avec une citation d'Eglantine Jebb,
qui disait « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur ». Et donc cette phrase est très importante, et je pense que Théodore Monnoir s'inscrit complètement dans cette conviction-là, et nous rappelle aujourd'hui à quel point l'actualité nous démontre qu'une telle transmission reste fragile. En effet, l'universalité des soins, la dignité de chaque enfant, le refus absolu de toute discrimination face à la souffrance, c'est un combat que nous devons mener aussi à l'étranger. On voit, vous l'avez soulevé notamment avec l'engagement du CICR, mais on voit à quel point il est important de pouvoir perpétuer cet héritage que nous honorons aujourd'hui toutes et tous ensemble. Merci de votre attention.
Madame la vice-présidente, je vous remercie. J'invite maintenant Monsieur le conseiller d'État, Pierre Maudet, à s'exprimer.
Voilà, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, à mon tour de vous adresser quelques mots au nom du conseil d'État de la République et canton de Genève. Commencez peut-être par saluer les nombreuses personnes dans l'assistante qui sont parentes, proches, en esprit ou par le sang de Monnoir. Qui viennent de Genève d'ailleurs ou d'ailleurs. J'ai entendu un accent balois tout à l'heure, que je salue également. Merci aux confédérés présents parmi nous. Merci aussi à Roger Durand, cet infatigable travailleur de mémoire à la tête de la société Henri Dunant et du comité Monnoir, pour cette nouvelle occurrence qui nous rassemble aujourd'hui et qui permet de rappeler quelques principes fondamentaux. Alors, je suis le dernier orateur, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je ne vais évidemment pas résumer, mais je vais tâcher peut-être de relier dans la mémoire ce que nous laisse Monnoir par rapport à la Genève internationale. Il faut se souvenir de lui, on l'a rappelé tout à l'heure, il a été médecin, chirurgien, philanthrope, et je m'arrête sur sa participation en 1863 à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, le futur CICR, avec un rôle qui fut discret mais décisif à teneur des textes, puisque lors de la conférence d'octobre 1863, alors que les divergences menaçaient d'aboutir à un échec, c'est lui qui, par sa clarté d'argumentation, par sa fermeté tranquille, a convaincu les plus réticents. Grâce à lui, mesdames, messieurs, les principes qui allaient devenir universels et qui sont fréquemment invoqués de nos jours, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, ont franchi ce premier obstacle. Monnoir a toujours porté une conviction profonde. L'humanitaire, mesdames, messieurs, ne doit pas rester l'affaire des élites. Il insistait pour que les idées de Dunant soient diffusées, de haut en bas, si je cite correctement, auprès des souverains, mais aussi auprès des populations. C'est cette intuition qui a donné à la Croix-Rouge un ancrage populaire, le président l'a souligné tout à l'heure, un ancrage populaire qui la rend encore très vivante aujourd'hui. Et je salue ici l'action de la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge genevoise en particulier. À Genève, nous nous situons à côté de cet édifice, il a défendu la création d'un hôpital pour enfants, ouvert à tous, c'est important de le souligner, et Dieu sait si l'accès aux soins est encore une question qui se pose en termes différents, mais une question actuelle, sans distinction de religion, sans distinction de conditions sociales, qu'il n'a malheureusement pas pu inaugurer, puisqu'il est décédé en avril 1869, et que celui-ci a été inauguré en 1872. Mais ce bâtiment est resté le témoin de la vision inclusive de Monnoir, et ainsi chez lui, le local et l'universel n'étaient pas opposés, ils étaient bien au contraire complémentaires. Si nous l'écoutions aujourd'hui, face à une Genève internationale fragilisée, Monnoir ne s'étonnerait probablement pas de nos doutes, car il avait lui aussi conscience de la fragilité de toute œuvre humaine. Il nous rappellerait sans doute que c'est précisément dans ces moments de crise que l'essentiel doit être réaffirmé. La Genève internationale, mesdames, messieurs, vous le savez, traverse actuellement une période de forte turbulence. Réforme de l'ONU, suppression de postes, interrogation sur la pérennité de certaines institutions. On parle de rationalisation, on parle d'économie, on parle d'efficacité, mais derrière ces termes, il y a une question plus fondamentale que le gouvernement genevois se pose et que je partage avec vous. Quelle est la raison d'être de la Genève internationale? Et c'est là que la voix de Monnoir nous est précieuse. Lui nous dirait sans doute que l'utilité de Genève ne se mesure pas seulement à des budgets, à des effectifs, mais qu'elle se mesure peut-être d'abord à sa fidélité à une mission. Cette mission, c'est celle de protéger la vie humaine, d'affirmer la dignité de tous, de maintenir le dialogue, même et surtout lorsque tout semble s'effondrer. Ce qu'il a incarné, mesdames, messieurs, c'est l'idée que Genève est utile au monde parce qu'elle incarne un esprit de neutralité, d'universalité, de service. Cet esprit a permis à la Croix-Rouge de naître ici. Cet esprit a conduit ensuite la Société des Nations, puis les Nations Unies et des dizaines d'autres organisations à s'implanter au bord du Léman. Alors aujourd'hui, alors que le multilatéralisme est contesté, que le hard power, pour reprendre des termes à la mode, revient sur le devant de la scène, que certains doutent de l'efficacité des institutions, je pense que Monnoir nous dirait que l'essentiel ne change pas. Il faut continuer à soigner, à protéger, à donner une voix à l'humanité au milieu des conflits. Cette plaque que nous allons dévoiler n'est pas seulement un hommage du passé. Elle est une boussole pour l'avenir. Elle nous rappelle qu'au cœur des incertitudes, Genève doit plus que jamais rester fidèle à ce qu'il a défini depuis plus de 150 ans, être une ville qui met sa singularité au service de l'universel. Théodore Monnoir a montré qu'une voix claire, ancrée dans la conviction, pouvait changer le destin d'une conférence. De la même manière, Genève doit aujourd'hui trouver la force de réaffirmer sa vocation. C'est cela, mesdames, messieurs, que cette plaque nous enseigne, qu'il n'y a pas de Genève internationale sans fidélité à ses principes et qu'il n'y a pas de fidélité sans courage. Je vous remercie.
Merci, monsieur le conseiller d'État. Nous allons à présent procéder au dévoilement de la plaque épigraphique et j'invite mesdames Kitsos et Scheller à me rejoindre. J'aimerais juste vous annoncer que la partie officielle est maintenant terminée, que nos remerciements vont à la société Théodore Monnoir à l'origine de la demande et du financement de la plaque, et aux collègues du service de l'aménagement du génie civil et de la mobilité en charge de sa pose, ainsi que du service des écoles, qui a fortement contribué à cette cérémonie, et des autres services municipaux impliqués. Je vous invite maintenant à un goûter qui est ouvert à toutes et tous devant la cour de l'école du Mail et qui est offert par le conseil administratif de la ville de Genève. Je vous remercie et je vous souhaite une belle après-midi. Right.